Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction. Cette semaine, Focus spécial Coupe du Monde. 5 épisodes, 5 matchs de légende des Bleus racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi parfois, avec des anecdotes inédites sur les avant-matchs, les rencontres, les après-matchs. Aujourd'hui, deuxième épisode, France-Brésil, Guadalajara 1986, quart de finale de la Coupe du Monde.
Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Allez Louis, allez mon petit bonhomme. Ouais.
Ira qui redonne à Petit qui va peut-être marquer, Petit vite. Vite de Petit.
Il m'a fait la frappe de finale.
France-Brésil, Coupe du Monde au Mexique 1986, quart de finale à Guadalajara, une affiche de légende, un match, un mythe raconté aujourd'hui par l'homme qui a délivré la France ce jour-là, Luis Fernandez, désormais consultant chez beIN Sport. Bonjour Luis.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Par Chérif Guémour, journaliste chez SoFoot, amoureux notamment du football brésilien, vous faites partie des auteurs de la fabuleuse histoire des France-Brésil aux éditions Solar. Bonjour Chérif.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Autour de la table également, Xavier Barret, auteur entre autres de nombreux ouvrages, mais du guide de la Coupe du Monde de football 2022 qu'il faut se procurer très vite maintenant là aussi aux éditions Solar. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Guadalajara 1986, on dirait presque le nom d'un film qui invite au voyage. Lieu de tournage, le stade Jalisco et son soleil éclatant à 1600 mètres d'altitude. Et quels acteurs face à nos Bleus, une génération sensationnelle. Zico, le Pelé blanc, Socrates, le docteur Falcao, Luis Fernandez. Est-ce qu'elle vous faisait peur, cette équipe? Ou est-ce que finalement, oui, depuis l'Euro 84, depuis aussi le traumatisme de Séville, la France avait appris à regarder en face les grands de ce monde?
Bah oui, on arrivait en étant champion d'Europe en 84 avec cette génération de Michel Platini. On avait avec paix à son âme à Henri Michel qui était notre entraîneur. Quand on arrive dans cette compétition, on arrive fort, on arrive costaud, on arrive solide, on a des ambitions, on a des envies, puis on a envie de, aussi, moi je n'y étais pas, hein, d'effacer 82, cette demi-finale face à l'Allemagne. Devant nous on avait les Brésiliens, ces hommes que l'on admirait, ce pays, ce football. Et puis moi j'avais un souvenir, c'était la Coupe du Monde en 70 avec Pelé, Gerson, Rivellino, ouais. Et puis je me retrouve là en plein milieu dans ce stade, et quand on rentre dans ce stade et qui est tout en jaune, bah oui, on a envie de réaliser quelque chose de grand.
Chérif Guémour, cette équipe, ce football samba, c'est vrai qu'il faisait rêver. Alors déjà, 9 buts marqués, 0 encaissés par les Brésiliens avant d'arriver face à nos Bleus. Ce Brésil des années 80, c'était quand même une équipe de playboy aux cheveux longs, quoi. Ça avait de la gueule.
Oui, ça tenait déjà beaucoup à la personnalité de leur sélectionneur Télé Santana, qui avait des idées assez larges, du beau jeu... qui voulait vraiment offrir au monde entier le football samba, ce qu'on appelait le football samba. Il avait une équipe en 86 qui était sensiblement la même que 82, mais qui était un peu plus vieillissante, qui nous émerveillait. Vraiment, c'était un régal. Et ce match-là, c'était presque, ce France-Brésil, c'était presque une finale avant la lettre.
Alors, les Brésiliens viennent de battre 4-0 la Pologne en 8e. Xavier Barret, nos Bleus aussi, ils arrivent avec le plein de confiance parce qu'ils viennent de sortir en 8e les champions du monde italiens, 2-0.
Oui, ils sortent effectivement les Italiens champions du monde, mais ils avaient eu un premier tour un peu compliqué avec ce match nul contre l'URSS difficile. C'est Luis d'ailleurs qui égalise, si je me souviens
super
bien.
Ouais,
c'était un match très compliqué. Ils avaient eu très très chaud parce qu'il faisait très chaud. Les matchs avaient lieu en milieu de journée au Mexique et effectivement, les Bleus, heureusement, avaient su s'organiser, comme d'autres sélections d'ailleurs, avec ces fameux petits sachets d'eau que chaque joueur apportait à ses coéquipiers dès qu'il allait vers la touche pour éviter effectivement qu'il crève de soif, tout simplement.
Alors, un mot de l'ambiance. Écoutez, avant la rencontre, un certain Michel Platini.
Une équipe brésilienne qui est en pleine forme, qui a fait 4 matchs, qui en a gagné 4, qui n'a pas pris un seul but, qui joue chez elle, qui joue à Guadalajara. Elle va jouer son 5e match à Guadalajara. Jouer le Brésil dans l'affaire, je ne sais pas si on a beaucoup à perdre, parce que tout le monde dit que ça devrait être un super match. On va essayer de bien jouer, on va essayer de gagner, on va essayer de jouer notre jeu, notre football collectif.
Les Brésiliens jouent chez eux, c'est ce que dit Michel Platini. C'est vrai, Chérif Guémour, ils étaient à la maison?
Oui, parce que c'est en souvenir de la Coupe du Monde de 1970, ils avaient joué dans ce stade Jalisco de Guadalajara. Et c'était un peu leur stade fétiche. Donc en plus, ils ont aligné donc 5 matchs d'affilée là-bas. Mmh. Et moi, je me souviens, quand on a vu ça à la télé, il y avait une marée jaune. C'était quand même... puis toujours le son, les orchestres de samba qui jouent, parce qu'il y a toujours des orchestres de samba qui accompagnaient l'équipe du Brésil. Alors déjà, on redoutait cette équipe. Mmh. Et puis quand on voit l'ambiance, on se met à la place des joueurs de l'équipe de France. Il y avait quand même une belle marée jaune dans les tribunes.
Alors Louis, vous avez fait référence à la Coupe du Monde 70, Shérif aussi. Oui. Tiens, écoutez, à l'époque, cette interview RTL, on est juste avant le match, Jairzinho, vainqueur du mondial avec le Brésil en 1970, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, est très très enthousiaste avant la rencontre.
Pour moi, c'est le meilleur match. Pour moi, je dis à la base, Brésil, que la finale du championnat cette année, c'est France et Brésil.
Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France?
Pour moi, c'est formidable. C'est la meilleure sélection du monde. C'est pour ça qu'il a gagné le championnat d'Europe.
Quel est ton pronostic pour le match alors?
C'est très difficile. Pour moi, que ce Brésilien aussi, que le Brésil va gagner, possiblement c'est 3-2.
Beaucoup de buts en tout cas.
Oui, beaucoup de buts pour que son sélection qui tenait la capacité pour marquer beaucoup de buts.
Excitation immense avant le match. Louis, dans le vestiaire, vous, avant le match, est-ce que vous étiez excité ou est-ce qu'au contraire, la concentration prédominait? Est-ce qu'il y a des images, des paroles qui vous reviennent?
D'abord, c'est la préparation tactique, parce que si vous vous en souvenez, j'ai démarré pas ce match dans le cœur du jeu, j'ai démarré ce match sur le côté droit, parce qu'on avait un côté gauche brésilien qui était assez fort, c'était Bronco. Alors Henri Michel se souvenait que durant le championnat d'Europe face à la Belgique à Nantes, on m'avait mis dans une position d'arrière-droit pour bloquer un peu Francky Vercauteren. On a rectifié dès qu'on a pris ce but magnifique, Rolla, remarquablement bien mené avec des feintes de corps, ils nous ont endormis sur cette action-là, ils nous ont fait, je sais pas, mais avant le match, la préparation, on était prêts, on était en train de se préparer, mais on avait un plaisir, on venait de battre les champions du monde, les Italiens. Michel était soulagé, il était content parce que vous savez que Michel à l'époque il jouait à la Juventus de Turin. Vous savez que Michel réalisait de belles choses. Il nous avait prévenu, hein, attention avec les Italiens, il faut les battre parce que je n'ai pas du tout envie de revenir en Italie et me faire chambrer. Alors Louis et avec tout le monde, on a tous fait le nécessaire pour bien préparer ce match. Et on était vraiment rentré dans ce match avec de belles. Il y avait aussi les conditions climatiques. C'était on jouait en altitude et là c'était assez compliqué, on va dire.
C'est vrai que le match, il va tenir toutes ses promesses. Deux équipes qui vont oser, qui vont se livrer, qui vont jouer leur jeu. Et vous l'avez dit, le Brésil, Louis, ouvre la marque après une merveille d'action collective. Ah ouais.
Pas loin d'être les meilleurs du tournoi. Bien joué, attention, Junior.
Carica et but.
Pas de problème, Carica seul démarqué aux 16 mètres. But à la 17e minute du Brésil par Carica.
Müller, Junior, Carica, la finition, tout à une touche de balle, des artistes, Shérif Guémour, ce but, c'est presque un symbole du foot à la brésilienne.
Qu'est-ce qu'on a eu peur sur ce but. On s'est dit, on va en prendre 8 là, parce que c'était une facilité, comme l'a rappelé Louis. Alors moi je me souviens, il y avait toujours deux sentiments qui prédominaient à l'époque quand on regardait l'équipe de France. Le premier, c'est que bon, c'était toute l'équipe de France à réaction. C'est-à-dire qu'en général, elle prenait le premier but. Donc là, c'était contre le Brésil, on s'est dit, le ciel nous est tombé sur la tête, ils vont vraiment en marquer 8, parce que c'était vraiment des artistes, des génies, des magiciens. Mais il y avait Michel Platini, et on savait que Michel Platini, pratiquement à tous les matchs avec l'équipe de France, il marquait. Donc on n'était pas entièrement désespérés. Mais sur le coup, qu'est-ce qu'on a eu peur.
Ça va vite sur le terrain, Louis, d'autant qu'il touche la barre ensuite. Donc vous êtes tout proche du 2-0.
Ouais,
ça va très vite sur le premier but, vous vous regardez entre vous.
Non mais on le savait qu'ils avaient ce talent, cette qualité dans la passe, dans les fins de corps pour éliminer. Et puis là ils nous ont vraiment enrhumés. C'est-à-dire qu'on essaye, on tente, on essaie de les stopper, on essaie de freiner, mais ça va trop vite. Voilà, je ne peux pas vous le dire plus parce que c'est vrai que ça fait mal. Et moi j'étais admiratif des Brésiliens parce que en 70, quand je les regarde à la télévision, je descends bas, j'ai envie de faire comme eux, mais je peux pas faire comme eux. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont un génie en eux et des facilités. Et si on tente de faire comme eux, on risque de se faire une entorse du genou ou une entorse de la cheville. Il fallait plutôt rester simple, voilà.
Alors, juste avant la mi-temps, le sauveur, on en parlait, surgit au second poteau.
Giresse, Rocheteau, peut centrer.
Et là, il y a but.
Oui,
but.
Platini.
But de Platini.
Égalisation de Platini, juste avant la mi-temps, sur cette remarquable action.
Xavier Barré, il est aussi symbolique ce but parce que ce mondial, Platini, il ne le joue pas à 100% d'ailleurs.
Non, mais comme malheureusement, sauf à l'Euro 84, Platini est toujours un peu blessé quand il arrive sur les grandes compétitions.
Giresse aussi était blessé.
Ouais, et donc, ils arrivent à se surpasser dans les grands événements, mais il n'est pas en pleine possession de ses moyens athlétiques. En plus, ce jour-là, il fête ses 31 ans déjà, hein, 31 ans, et il veut vraiment réussir ce match, et donc il a ce sens du but qui lui permet d'exploiter cette occasion. L'équipe de France n'avait pas eu énormément d'occasions, elle avait été quand même assez largement dominée au cours de la première période, et c'est vraiment un soulagement extraordinaire pour tous ceux qui regardaient ce match que de le voir être là pour pousser ce ballon au fond des filets.
C'est à cette égalisation que le rêve a vraiment commencé. Autant le Brésil menait, on était inquiets, il y a 1-1, on sait que là ça va être la grande fête.
Là tout est possible. Partout à la mi-temps, Luis Fernandez, vous vous souvenez du retour dans les vestiaires, qu'est-ce qui se dit, qui prend la parole à ce moment-là?
C'est Henri Michel, hein. Il y a un entraîneur qui est là, qui est présent, qui nous rebooste, il nous a reboosté, il nous a redonné cette confiance pour repartir, parce qu'il a dit après le 1-0, on a tous cru, on a tous eu peur, on s'est dit voilà, maintenant on va subir cette déferlance brésilienne. Finalement, on a eu l'occasion d'égaliser, et puis après au retour dans le vestiaire, on s'était dit voilà, on a encore des chances de pourquoi pas de les éliminer. Voilà, c'est un objectif. Et puis tout le monde était content, et on est revenu sur le terrain. Il y a eu des changements après en cours de match, mais bon, ça a été.
La deuxième mi-temps, elle est encore marquée d'ailleurs par des occasions brésilienne, Careca tape la barre, ça commence à faire beaucoup. Et puis Zico entre en jeu. Je voudrais qu'on parle un peu de Zico, Shérif Guémour, le Pelé blanc Zico, qui était relégué sur le banc d'ailleurs ce match-là.
C'est ce que je disais, ce Brésil était fantastique, mais il était un peu vieillissant. Et alors on a toujours l'impression qu'en 86, on a encore affaire à la paire Socrates-Zico, mais en fait ils sont déjà sur le déclin. Et Zico, donc très logiquement, il était relégué sur le banc, il n'était pas à 100% quand il est rentré, il appartient un peu à cette génération de 82 qui a peut-être laissé passer sa chance 4 ans plus tôt.
Alors sur son premier ballon, en tout cas Zico,
après il y a le talon.
Branco et Joël Balz le fauche, pénalty.
Intervention illicite de Joël Balz et pénalty qui va être tiré par Zico lui-même. Ah là, j'ai bien l'impression que ça va être très difficile. Mais enfin, sait-on jamais. Joël Batz, qui a joué son va-tout et qui a l'occasion de le jouer une deuxième fois. Coup de sifflet, c'est parti et c'est arrêté. Bravo Joël. Bravo Joël.
Shérif.
Oui, Zico était un spécialiste des coups de pied arrêtés, à la fois des coups francs et des pénaltys, donc c'était évidemment du 100%, on était sûr.
D'habitude.
D'où l'inquiétude de Thierry Roland, on comprend.
Alors, il rate Zico, Batz répare son erreur. Louis, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Deux fois les montants, un pénalty arrêté, bon là c'est le destin, vous vous dites on ne peut pas perdre.
Pour moi c'était un soulagement, parce qu'il faut que, si vous avez l'occasion de revoir le match, il y a une perte de balle, et c'est la perte de balle de Luis Fernandez qui contribue à ce que sur cette situation-là, il y a une balle dans la profondeur, il y a le pénalty, puis Michel est arrivé à côté de moi, il m'a secoué un peu, et puis je tremblais, j'avais très 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 peur, et puis finalement Joël a réussi l'exploit de l'arrêter. Et c'est vrai que Zico, bon, c'est vrai que c'était un tireur remarquable, mais il faut, dans la tire au but, on aura l'occasion d'en reparler, il va le marquer le sien. Mais c'est vrai que quand il l'arrête, on est content, hein. Je peux dire que ça nous a fait un bien énorme, et j'étais content, parce qu'après Michel est venu m'embrasser, et en même temps j'étais embrassé aussi Joël Batz.
Xavier Barré, Joël Batz, il est énorme, parce qu'on va évoquer évidemment tout à l'heure la séance de tir au but, mais quelques minutes plus tard, 75e, il repousse une tête de Zico, encore lui à bout portant, il semble presque habité sur ce match-là.
Il est phénoménal, et là aussi, par rapport à 1982, c'est là où un très grand gardien fait la différence. C'était Jean-Luc Ettori qui était au départ de la Coupe du Monde 82, troisième gardien, qui s'était retrouvé titulaire. Là, Joël Batz, c'est le meilleur gardien français. Il a été champion avec le Paris Saint-Germain. Il est le gardien sur lequel, titulaire indiscutable, sur lequel on s'appuie, et il sait justement faire la différence dans ces grands moments. Et là, sur ce pénalty, effectivement, il relance complètement l'équipe de France. Je pense même qu'il fait basculer le match à ce moment-là. Et donc, depuis, à ce moment-là, la confiance change de camp. Louis était sur le terrain, il nous en parlerait encore mieux, mais on a vraiment le sentiment sentiment qu'il ne peut plus rien arriver à l'équipe de France et qu'elle peut aller chercher cette qualification alors qu'elle n'était pas favorite.
Un partout, voilà.
D'autant plus que les Brésiliens sont très superstitieux. Donc, ils ont le moral qui flanche assez rapidement quand les
l'avantage psychologique tourne moment-là. Un partout à la fin des 90 minutes. Prolongation marquée d'ailleurs par un fait d'anti-jeu. Carlos, le gardien brésilien qui sort de sa surface, qui
ceinture
Bellone.
Même pas en rouge.
Et qui s'apprêtait à l'éliminer et se retrouver face au but vide. Luis, on se souvient d'ailleurs Platini qui agrippe l'arbitre, monsieur Ignac, l'arbitre qui dit ça joue, ça joue.
Ça joue, il était mécontent parce que c'est vrai qu'il était. Mais c'est à Bruno de se laisser tomber. Bruno doit sur cette situation-là, il reste sur ses appuis, il reste debout. Mais c'est. S'il tombe, peut-être que là, il y a pénalty ou il y a expulsion, mais en restant debout, il donne un signal à l'arbitre comme quoi il n'a pas été touché ou pratiquement pas beaucoup.
Là franchement, ça aurait été un événement historique en plus. Parce que si vous expulsez un gardien, il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait que deux remplacements. Et donc, le Brésil finit le match à 10. Mmh. Parce que les remplacements ont déjà eu lieu. Et avec sans gardien. Donc, obligé de mettre un joueur dans les buts. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait, d'ailleurs, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais si monsieur Ignat, l'arbitre roumain, avait pris la bonne décision, effectivement, on aurait été face à. Un événement historique.
C'est un arbitre, excusez-moi de vous couper, c'est un arbitre aussi, quand on regarde, il y a eu un bon état d'esprit de part et d'autre, des deux côtés, avec les Brésiliens et avec nous, et je pense que sur ce match-là, j'aurais mérité amplement de prendre un carton, et je ne l'ai pas pris, parce que j'ai assez souvent, je me suis laissé aller, et c'est vrai que l'arbitre aurait pu siffler, mais bon, c'est bien comme le final a été fait, je pense.
Alors, vient ensuite cette séance de tir au but. Louis, est-ce que les tireurs sont rapidement désignés? Est-ce que c'était prévu avant? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se portent volontairement?
Vous le savez, il y a quand même un souvenir, quand même un mauvais souvenir. Il y a 82 quand même.
Bien sûr.
Il y a cette demi-finale et dans cette demi-finale de 82, il y avait un joueur qui était avec nous et puis Maxime Bossis qui l'avait loupé face à l'Allemagne. Alors c'est vrai que quand Gigi était sorti déjà en cours de match et on a décidé le plus rapidement on a levé la main et puis on s'est décidé. Moi je ne voulais qu'une seule chose, c'est de tirer en cinquième position comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire avec le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France en 82 contre Saint-Etienne. Je tirais toujours à la fin. Je voulais que la décision soit faite bien avant et qu'on n'arrive pas à moi pour que la décision se fasse.
Le premier tireur, c'est Socrates, alors joueur immense, homme immense aussi, symbole de la lutte contre la dictature dans les années 80 et qui va rater son pénalty.
Bravo Joël, exactement au même endroit. Et je ne voulais pas dire que Socrates n'avait pas été très bon jusque-là. Exactement au même endroit.
Chérif Guémour, Socrates, qui ensuite d'ailleurs va quitter la Seleção, c'est un peu un triste clap de fin pour un joueur. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas, les plus jeunes, mais c'était une icône, Socrates. Hein. Vieillissante, mais une icône.
Oui. Bon, il avait pas énormément pesé sur le jeu, une fois de plus, mais c'était Socrates. Et on s'est dit, comme c'est un grand, c'est un très grand, premier tir au but, c'est lui qui va montrer la voie au Brésil. Mais il faut rappeler quand même que les deux arrêts de Joël Batz, que ce soit pendant le match avec Zico ou tir au but, il a deux détentes extraordinaires. Ouais. Parce que bon, évidemment, quand on arrête, on dit oui, c'est l'attaquant qui a raté. Non, c'est le gardien qui
allait. Voilà. Ouais.
Donc il était plutôt pas mal tiré, pas très fort, plutôt à mi-hauteur. Mais faut y aller, et il s'est détendu au bon moment, tout de suite, en un éclair, il a repoussé le ballon de Socrates.
Pendant cette séance, il y a une autre légende qui se manque, c'est la nôtre, Platini qui tire au-dessus.
Platini qui embrasse celui de ballon.
Et je crois que Thierry Roland, à ce moment-là, dit on l'avait pas vu venir. Vous confirmez que Xavier Barret, Platini qui rate un pénalty, ce n'était pas commun?
Ah, c'est exceptionnel, puisque c'est souvent...
Ça se trouve que c'est son unique qu'il a raté, non?
Alors, de mémoire...
Il l'a raté jamais, non?
Oui, c'était quelque chose qui n'arrivait jamais, effectivement, et cette grande sérénité de Platini... quand il tire, tout le monde se dit c'est bon, quoi. On pense même pas qu'il peut rater, en fait. Ouais. Et puis, effectivement, il rate comme c'est arrivé
au-dessus,
souvent dans
c'est
l'histoire.
C'est même pas cadré, hein, tu vois.
Dans l'histoire de la Coupe du Monde, souvent, c'est les grands champions qui ratent ces pénaltys décisifs et qui font basculer les matchs. Mais là, il y avait encore... du coup, ils se retrouvent à égalité.
Heureusement, juste derrière, Julio César va se manquer. Et cher Luis Fernandez, souvenez-vous, la victoire est au bout de votre pied.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme. Je ne dis rien, je me suis remarqué. Je ne dis rien. Allez, Luis. Allez, mon petit bonhomme. Ouais. Ouais. Oui, mon petit.
petit bonhomme, bravo.
Vous avez des frissons à chaque fois, Louis, en réécoutant oui. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet oui. ou Michel Drucker, parce qu'il y avait aussi le match sur Antenne 2.
Oui, à tous ces personnages, son âme à Thierry Roland et puis à Jean-Michel qui est toujours dans l'actualité comme Michel Drucker. C'est vrai que ces hommes-là ont aussi, par leur voix, par leur encouragement, c'est vrai qu'ils nous ont aussi accompagnés, mais quand on se lance pour tirer ce penalty, on essaie de mettre tous les atouts de son côté, ce que j'ai fait en étant tranquille et calme, en allant pour me diriger à ce point de pénalty, même le gardien de but n'étant pas dans son but encore, il m'a essayé de me déstabiliser en mettant le pied à côté du ballon avant de tirer pour me faire un petit trou, mais bon, ça n'a pas marché.
Ce pénalty, d'ailleurs, vous le racontez oui. juste après le match. Écoutez cette archive.
Je suis heureux parce que c'est vrai que dans mes pieds, j'avais une certaine responsabilité. J'en étais conscient déjà quand je me suis désigné pour aller tirer les pénaltys. Je savais que si l'occasion venait, ben, je me suis dit je me dégonflerai pas et je la mettrai au fond parce que je crois qu'il ne faut pas louper une belle aventure comme ça.
Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez fermé les yeux avant de tirer?
J'ai fait le vide et quand 14 a loupé, le Brésilien a loupé le sien avant le mien, ben, je me suis dit maintenant je vais le mettre au fond et on va plus en parler.
On vous entend à l'époque, on vous entend maintenant, on a l'impression que vous y êtes allé sans pression, c'est fou, vous entendiez ouais. plus le stade autour de vous, vous aviez non. choisi de quel côté vous alliez tirer, vous étiez
parce que
serein.
Il faut savoir que quand je me dirige pour tirer ce cinquième, si je loupe mon penalty, la série continue.
Ouais.
Vous voyez, déjà c'est déjà un avantage pour un tireur, c'est-à-dire que tu le loupes, ben on n'est pas encore
c'est
éliminé.
Pas fini, ouais.
Et dans cette situation-là, par le passé, j'ai déjà eu l'occasion de m'y retrouver, d'être dans cette fonction, de finir une série. Et ben on y va avec moi. Je me posais pas de questions. J'allais en toute tranquillité, avec le calme et en ayant décidé de là où j'allais tirer, dans quel coin, j'avais pris l'option de tirer là sur ce côté-là. Si le gardien éventuellement il peut se jeter, il peut aller la chercher, mais moi je l'ai mise là où j'avais envie de la mettre. Et puis j'étais content et heureux pour l'équipe de France.
Ouais, on se souvient de vos bras grands ouverts après ce
Michel.
But avec Michel.
Il m'a dit merci. Hein.
Ouais, bah oui, on peut le comprendre.
Michel, t'inquiète pas, on est là.
Vous éliminez le Brésil. La France est en demi, Xavier Barret, donc elle va échouer ensuite 2-0 encore contre les Allemands. Mais bizarrement, dans l'imaginaire collectif, on se souviendra de ce France-Brésil et beaucoup moins du France RFA qui va suivre. Il a presque un peu disparu de l'histoire collective du foot français. Alors bien entendu, ça n'avait pas la dramaturgie de Séville, mais pourquoi le France-Brésil est tant resté dans les mémoires et pas la défaite suivante, finalement?
Ouais, Louis l'a très bien expliqué, il y avait cette ambiance extraordinaire à Guadalajara, l'équipe de France jouait à l'extérieur, et elle va battre l'équipe qui était favorite de cette compétition, qui était favorite des gens, non seulement sportivement, mais aussi favorite de cœur, parce qu'on sait que le Brésil, tout le monde aime le Brésil, sauf quand on joue contre lui. Donc du coup, c'était un exploit monumental qu'avait réalisé l'équipe de France. Et peut-être que derrière, le soufflet, le contre-coup fait que face à l'Allemagne, ils ont presque peut-être eu du mal à se remotiver. Parce que cette équipe d'Allemagne, eh bien, elle était arrivée là encore une fois sans crier gare. Ouais. Elle s'était passée au tir au but en quart de finale. Et donc cette équipe d'Allemagne, on était presque sûr en fait qu'on allait aller je m'inclus dedans, mais j'étais pas sur le terrain. Mais on était presque sûr qu'on allait aller en finale. À partir du moment où vous battiez le Brésil, la France devait être championne ouais. du monde. Et on avait oublié que les Allemands, eux, ne s'avouent jamais vaincus.
Vous confirmez, Louis, s'il y a peut-être eu une forme de décompression inconsciemment?
Il y a des raisons pour vous dire, pour ce match face à l'Allemagne, on l'a joué avant de le jouer. Pourquoi? Parce qu'on a un mauvais souvenir. 82, il est. Moi, je n'y étais pas en 82 et en les écoutant, en regardant cette, j'étais pas loin, j'étais à 100 km de Séville et c'est vrai que ça m'a marqué, ça nous a marqué la sortie de Schumacher, cette équipe en 82 qui aurait amplement mérité parce que quand tu mènes 3-1, 7-3-3 et ça se termine au penalty et quand tu joues avec cette génération, parce que je suis dans cette génération, j'ai envie aussi de leur apporter et quand on joue cette demi-finale. On est en train de parler avant de la jouer. On est en train de parler déjà de ce qui s'était passé en 82 et le match contre le Brésil aussi. On y a laissé pas mal de force. Il faut quand même le comprendre. Mais on va finir cette Coupe du Monde. On finira troisième quand même. Il y a une belle génération, ouais. une belle équipe de France. Et puis après nos enfants, ceux qui sont arrivés après en 98, ils ont été magnifiques. Ils ont été champions du monde. Voilà, on a peut-être montré le chemin, mais on avait. C'est vrai que contre l'Allemagne, et il faut aussi respecter l'Allemagne parce que dans l'Allemagne, il y avait quand même un grand sélectionneur, hein, c'était Franz Beckenbauer. Hein.
Thierry Guémot, le mot de la fin.
Ouais, bah, le souvenir de ce France-Brésil, c'est un souvenir sportif pour tous les amoureux du football. C'est un match qui est resté... Il y a presque une expression pratiquement universelle. C'est le match durant lequel le ballon ne sortait jamais des limites du terrain. Parce que ça jouait, ça jouait, ça jouait. Et c'est pour ça que ce souvenir a marqué à la fois les Français et tous les amoureux du football de par le monde.
Merci Chérif Guémour, merci Louis Fernandez, merci Xavier Barret, merci à tous les trois de nous avoir raconté votre France-Brésil 1986. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction spéciale Coupe du Monde. 5 matchs de légende des Bleus cette semaine, demain un autre France-Brésil, Louis l'évoquait, Saint-Denis 1998, finale, première étoile sur le maillot.